J'aimerais parler ce matin sur comment servir Dieu. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. » C'est un extrait d'une parabole de Jésus qui est très connue, surtout la première partie, qui concerne un fils, le fils le plus jeune, qui a demandé l'argent de l'héritage et qui est parti vivre dans la débauche, dans un pays éloigné de la maison du père. Et puis, alors qu'il était tombé au plus bas à garder les cochons, il s'est rappelé des bénédictions qu'il y avait dans la maison de son père. Il s'est repenti et il est retourné vers son père. Il a demandé pardon. Et immédiatement, suite à cette sincère démarche de repentance, car ce n'est pas du bout des lèvres qu'il nous faut demander pardon à Dieu, mais du fond du cœur, il a réellement demandé pardon, il a réellement changé de vie. Eh bien, le père l'a réhabilité dans la maison, lui a donné une belle tunique, un anneau au doigt, des souliers aux pieds, et il a fait pour lui tuer le veau gras, c'est-à-dire il a organisé une fête pour l'honneur de ce retour de ce fils perdu. Et on va s'intéresser donc ce matin sur le deuxième fils, celui qui est l'aîné, celui dont on ne parle pas souvent. C'est l'aîné qui était resté dans la maison pendant tout ce temps. Ça a peut-être duré plusieurs années. Et lui, pendant toutes ces années, il servait fidèlement son père dans toutes les activités de la maison. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'entend pas parler de lui dans toute la première partie. On dirait qu'il n'a pas fait de vagues, il a fait son service régulièrement. Mais en tout cas, ce que va révéler maintenant la suite du récit que nous avons lu, c'est que son cœur n'était pas droit par rapport à son père. En tout cas, il donnait une certaine apparence, mais la réalité va surgir quand il va voir son frère revenir et qu'il va être pardonné, il ne va pas l'accepter. Alors j'aimerais voir un premier point qui est l'attitude du frère aîné. L'attitude du frère aîné, d'abord, on pourrait dire un point positif, car malgré son cœur, en tout cas qui n'est pas bon, en tout cas il se rendait disponible pour faire des services, pour être utile. Il était dans les champs, c'est-à-dire qu'il travaillait sous le soleil, sous la pluie, quand il faisait beau, quand il faisait froid, pendant les moments difficiles. Il était là et il se rendait disponible et il se rendait utile. Et ça, c'est quand même une qualité que l'on peut mentionner. C'est quelqu'un qui sert, c'est quelqu'un qui est actif, qui ne reste pas là à regarder ce qui se passe, attendre que les choses se fassent, mais qui se rend utile. Il n'est pas resté oisif, il n'est pas spectateur. C'est un petit peu comme quand il y a les matchs de football. Vous savez que dans un match de football, il y en a 11 de chaque côté qui s'agitent sur le terrain, et puis il y en a 40 000, 60 000 spectateurs qui, eux, ils encouragent, mais ils font rien du tout. C'est eux qui sont sur le terrain, qui courent, qui essayent de marquer des points, et les autres, ils sont spectateurs. Et dans le service de Dieu, nous ne devons pas être des spectateurs. Nous devons être des acteurs, des participants. Donc c'est un point positif, c'est un acteur, un participant au service. Mais regardons son cœur, car c'est une très bonne chose de servir, et il faut le faire, on va le voir. C'est même une nécessité. Mais Dieu s'intéresse non seulement à ce que nous faisons, mais à notre cœur. Quel est l'état de notre cœur dans le service? Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement le service que nous accomplissons, mais dans quelle attitude de cœur nous le faisons. Et on regarde un petit peu le cœur de ce frère aîné, qu'est-ce que nous voyons? Et nous l'avons lu ensemble, nous voyons de la haine, nous voyons de la colère, nous voyons de la méchanceté, et pourtant c'est un croyant. C'est quelqu'un qui est dans la maison du Père. C'est quelqu'un qui sert dans la maison de Dieu, qui est là, qui fait des choses pour son Père. Mais ça, c'est Dieu. Donc, il voit nos cœurs. Et il pourrait nous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sers, mais comment est ton cœur? Pourquoi tu as de la haine dans ton cœur? Pourquoi il y a de la colère dans ton cœur? Pourquoi il y a de la méchanceté? Vous savez, c'est arrivé, on parle de choses réelles, c'est arrivé déjà dans l'Église, ces problèmes-là, lorsque Philippe, qui était un évangéliste, a prêché Jésus, il a prêché Christ, dit la parole, dans la ville de Samarie. Beaucoup de personnes se sont converties. Ça, c'est une bénédiction, c'est la conséquence de la proclamation de l'Évangile. Gloire à Dieu. Et parmi ceux qui se sont convertis, il y en a un qui s'appelait Simon le magicien. Il impressionnait beaucoup l'auditoire par sa magie. Mais sa magie, elle ne venait pas de Dieu, bien sûr. Elle venait du diable et il arrivait à faire des prodiges qui sont des prodiges mensongers. Et les gens étaient très séduits. Et puis, en entendant la parole de Dieu, la Bible dit que Simon crut et il se fit baptiser. Alors maintenant, il fait partie de l'Église. Et il est là dans les rassemblements, dans les cultes. Et il loue le Seigneur avec les autres croyants. Il fait partie du peuple de Dieu. Et pourtant, à un moment donné, quand Pierre et Jean sont montés de Jérusalem à Samarie pour prier, afin que ces Samaritains soient remplis du Saint-Esprit, et qu'il a vu les personnes être baptisées du Saint-Esprit et parler en langue, cet homme a demandé de recevoir aussi ce pouvoir, et il était prêt à donner de l'argent pour avoir ce pouvoir, que lorsqu'il allait prier lui aussi, les gens allaient être baptisés du Saint-Esprit. Il n'avait pas bien compris ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, et il n'avait pas bien compris certains éléments de la foi. Mais ce qui est important, c'est ce que Pierre dit, car Pierre a reçu le don de discernement. Et voyez, c'était un croyant qui était là dans l'auditoire, mais Pierre lui dit, « Repens-toi donc de ta méchanceté. » C'est dans Actes 8, 22. « Repens-toi donc de ta méchanceté. » Ça veut dire que ce croyant venait avec de la méchanceté dans son cœur. Pourtant, il était bien là. « Prie le Seigneur que la pensée de ton cœur se soit pardonnée. » Ça veut dire qu'il avait des mauvaises pensées, des pensées impures, des pensées qui n'étaient pas de Dieu. « Car je vois, et Pierre continue, je vois, c'est ça le discernement, tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. » Une autre version dit, tu es rempli d'amertume et tu es prisonnier du mal. Quel drame pour un croyant qui a été baptisé, qui fait donc partie de l'église de Samarie et qui a dans son cœur de la méchanceté, il y a des liens, il y a de l'amertume, il y a de l'iniquité et ça c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu le dénonce, Dieu le dévoile et c'est pourquoi il a dit « Priez pour moi afin que je sois pardonné ». Et ça, c'est nécessaire qu'il soit délivré et c'est pareil pour nous car notre cœur doit être entièrement pur pour Dieu. Donc nous voyons premièrement le service de ce frère aîné, deuxièmement son cœur qui n'est pas en état de servir Dieu, troisièmement son refus de la communion avec les autres. Car lorsque le Père lui dit de rentrer, lui qui a entendu les chants, la musique à l'extérieur, lorsqu'il apprend que son frère est dedans, il ne veut pas rentrer, il ne veut pas être en communion avec les autres. Il se met à l'écart et ça c'est aussi un signe qu'il y a un problème. Car il exprime de la colère. Vous voyez, c'est écrit au verset 28. Il se mit en colère quand il apprend que son frère qui a dépensé l'argent du père dans la débauche, alors la moutarde lui est montée au nez, il s'est mis en colère. La colère va nous pousser toujours à faire des choses graves et que l'on va regretter. Par la colère, ce mari qui va frapper sa femme, c'est grave, mais c'est la colère qui l'anime. Ce père qui va frapper son enfant à cause de sa colère, il n'a pas su évacuer sa colère. Ou cette épouse qui va entretenir un esprit de vengeance vis-à-vis de son mari à cause de la colère. La colère que vous entretenez vous poussera toujours à des actes que vous regretterez peut-être toute votre vie. C'est comme un feu qui fait perdre le contrôle. Proverbe 19:11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. C'est ce que nous devons viser, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Ne pas laisser la colère nous animer, car la colère va produire du mal. Il met sa gloire à oublier les offenses. Est-ce que nous arrivons à oublier et à pardonner à ceux qui nous ont offensés? Car certains, ils vivent avec, aujourd'hui avec leur esprit, de tout le mal qu'on leur a fait depuis ces 20 dernières années. Ils se rappellent encore que quand ils avaient 4 ans, il y a un autre enfant qui leur avait piqué son goûter. Ils se disent, si je le retrouve celui-là, je me vengerai. Et aujourd'hui, ils sont dans cet état d'esprit de vengeance. C'est triste ça. Quand on n'arrive pas à oublier le souvenir. Ils revivent encore peut-être des événements d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils ont eu une altercation avec leur patron. Et là, ils le revivent et à chaque fois qu'ils voient leur patron, s'il pouvait être pendu comme Aman celui-là, la vengeance. C'est pas bon ça. Et quand on entretient cet esprit de vengeance, c'est la colère, c'est des mauvais sentiments. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans l'esprit, on n'abandonne pas ces choses à Dieu et on les entretient, c'est-à-dire on en parle le soir, on y pense la nuit, on en parle à midi, on en parle le matin, et constamment, on vit au présent des choses du passé. Un jour, j'ai fait cette expérience lorsque j'étais en déplacement dans une autre église. On était au repas avec des frères et sœurs et le mari de la maison se tourne vers moi et me demande « Mais quel est votre pire souvenir dans l'église ?» Et moi, je réfléchissais. Alors, il y a eu un blanc et je réfléchissais « Mais quel est mon pire souvenir ?» Eh bien, je ne trouvais pas de pire souvenir. Que Dieu nous fasse grâce d'effacer dans notre esprit tous les pires souvenirs. Et qu'on ne garde que ce qui est bon, que Dieu nous aide. Vous savez, sur les ordinateurs, il y a une touche qui s'appelle « supprimer ». Supprimer. Il y a des fichiers, parfois, il faut les supprimer. C'est les fichiers des mauvaises choses qu'on a fait sur vous, qu'on a dit sur vous. Supprimer. Supprimer de la mémoire. Et une fois que c'est supprimé, ça y est, c'est parti, vous pouvez rechercher, c'est fini. Que Dieu nous aide à oublier, à pardonner. Parce que la colère, vous voyez, moi j'aurais pas aimé croiser ce frère aîné en colère. Ça vous est peut-être déjà arrivé de croiser un chrétien en colère? Qu'est-ce qui fait un chrétien en colère? Il mord. Galates chapitre 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Eh oui, c'est Paul qui dit ça. Le chrétien en colère, il mord. C'est un pitbull évangélique. Et lorsqu'il mord, ça fait mal. Je connais cette histoire de ce petit chien qui était très agressif. Très, très agressif. Il mordait tout le monde. Et surtout, il attaquait les chiens qui étaient plus gros que lui. Alors, il finissait par avoir des gros problèmes. Et le maître de ce petit chien, il ne savait plus comment faire parce qu'il mordait, il mordait. Dès qu'il voyait soit un chien, soit un être humain, il l'attrapait, il le mordait. Alors un jour, il l'a emmené chez le vétérinaire. Et le vétérinaire a fait une analyse de ses yeux. Et en fait, ce chien avait une maladie des yeux, c'est-à-dire qu'il voyait tout en petit. Et quand le spécialiste a guéri ses yeux, donc il a rectifié ce problème, mais le petit chien était transformé, il était tout doux, tout calme, parce qu'il a compris que l'environnement dans lequel il était n'était pas celui qu'il voyait à l'origine. Mais il était très agressif. Peut-être qu'on a besoin de changer nos verres de lunettes et de recevoir la vision de Dieu, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Parce que l'important, c'est de traiter le problème de la colère avant qu'il ne fasse des dégâts. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous mettez en colère, vous ouvrez une brèche dans votre cœur et le diable, il va y semer des mauvaises pensées. des pensées de haine, la méchanceté, venge-toi, tu vois tout le mal qu'il t'a dit. Et ça, ça va vous entretenir l'esprit et même vous pousser à faire des choses graves. J'ai discuté avec un chrétien qui un jour s'est tellement disputé, il s'est disputé avec son épouse, mais il s'est disputé grave au point que les assiettes, elles volaient à travers la maison. Et lorsqu'il il était tellement en colère, il est parti de la maison en claquant la porte, il a descendu les escaliers, il a foncé dans sa voiture, et pour soulager sa colère, il s'est dit je vais aller à fond en voiture, et il a fait le tour du pâté de maison. Mais figurez-vous qu'à un moment donné, il y avait un passage piéton, il y avait des enfants qui traversaient, il a failli les écraser. Pour les éviter, il a tourné sur le côté, il a rentré la voiture sur le bas-côté, il a eu un accident, il s'en est sorti, les enfants s'en sont sortis, mais il aurait pu, ce jour-là, il aurait pu écraser des enfants à cause de sa colère. Il aurait pu donc tuer des personnes. Ce n'est pas ce qu'il voulait faire au départ. Il voulait soulager sa colère, mais il était dans une telle haine, une telle violence, il a voulu l'exprimer comme ça, et ça aurait pu être terrifiant. Il n'y a eu que de la casse matérielle, merci Seigneur, mais ça aurait pu être vraiment, vraiment terrible. Donc, c'est pour ça que la Bible dit « Ne vous couchez pas sur votre colère, parce que ça va donner un accès au diable. Et si ça donne un accès au diable, vous allez faire des choses que vous allez regretter toute votre vie, et vous allez peut-être avoir des accidents, des personnes vont périr, des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec votre colère, et ça va faire beaucoup de dégâts. Quatrième chose que je vois dans ce fils aîné, c'est son amertume. Car le fils aîné se rappelle, et il va le mentionner au père, toutes les années fidèles qu'il a servies, donc auprès du père, dans sa soumission. Car il faut préciser que le fils aîné, il voit son père comme un maître. Et lui, il se considère comme un esclave. Il dit, alors j'ai pris la parole vivante, « Ça fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. » Voilà la pensée du fils aîné. Comme un esclave. Il me rappelle, vous savez, celui qui avait reçu qu'un talent dans la parabole des talents. Celui qui en a reçu cinq, il fait fructifier. Toi, c'est bon, tu es un bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu deux, il fait fructifier, entre dans la joie de ton maître, tu es un bon serviteur. Et puis celui qui avait un, il dit ceci, « Ô maître, je savais que tu es un maître dur, que tu vas récolter où tu n'as pas semé. » Et il a une vision de son maître qui est vraiment très dure, très dure. Un peu comme ce fils par rapport à son maître. C'est pourquoi il a dit « Moi, j'ai préféré enterrer mon talent et puis je te le restitue tel qu'il était. » Il n'a pas compris ce qu'attendait son maître. Il attendait qu'il fasse fructifier son talent et qu'il le développe. Autrement dit, ça nous parle du service, de se rendre utile. Mais il a dit « tu es dur ». Voilà une mauvaise compréhension de Dieu. Dieu est un Père qui nous aime. Et puis, il est jaloux de son frère, ce fils aîné. Il est jaloux parce qu'il voit bien que pour lui, on a tué le veau gras. Ça, c'était l'animal qu'on réservait pour les fêtes spéciales, les mariages et les grandes fêtes. Mais il a dit « mais pour moi, tu n'as même pas fait tuer un chevreau pour moi ». Il est jaloux. Mais comment est-ce qu'on peut être jaloux des grâces de Dieu? Car Dieu nous a fait grâce à tous. Mais à l'un, il va donner tel ou tel service, telle ou telle position dans l'Église. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand David a été oint, il n'était pas là le jour où Samuel a choisi celui qui allait remplacer Saül. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas s'imposer. Mais Dieu a révélé à Samuel, il manque quelqu'un. Et on a fait venir David. Et David a été oint au milieu de ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères ont été jaloux. Mais comment est-ce qu'on peut être jaloux de l'onction? Car il ne pouvait y avoir bien qu'un seul roi. Ce n'était pas tout le monde qui allait être roi. Mais Dieu avait décidé que ce serait David à la place de Saül. Et là, ils étaient jaloux en disant, et pourquoi lui et pas moi? Et Éliab, il se serait bien vu, lui, roi à la place de David. C'était le fils aîné pour qui c'était logique qu'il soit le premier. Jalousie, ça s'est mal fini pour les frères de David, car nous devons bénir le Seigneur pour les dons et les grâces qu'il donne pour les service aussi et pour les positions qu'il accorde, car c'est l'onction qui vient de Dieu. Et on ne doit pas être jaloux de cela. Et puis je remarque chez lui aussi le mépris pour son frère. C'est quand même son frère. Parce que regardez comment la Bible dit. Et quand ton fils... Alors il s'adresse au père, il dit, mais c'est comme si c'est plus mon frère. Il dit, c'est pas mon frère, c'est ton fils à toi. Alors que c'est son frère. Mais il le méprise en disant, c'est ton fils, lui, il a mangé le bien, t'es prostituée, tout ça. C'est pas mon frère. Et ça, c'est pas bon. Car dans son esprit, il juge son frère. Et puis, il rappelle son péché. Lui, il vivait dans la débauche. Moi, j'étais bien dans la maison. Il manque de pardon. Vous voyez, quand on n'arrive pas à comprendre la grâce de Dieu, on vit toujours sous la loi. Et Dieu nous a fait grâce à nous, il va faire grâce à d'autres. Il y a des gens qui étaient terriblement loin dans le péché, mais Dieu les a pardonnés. Et ce fils qui est parti vivre dans la débauche, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le frère aîné ne le croit pas, il ne le comprend pas, il le refuse. Mais pourquoi il reproche sa vie passée? Dieu lui a donné un nouveau départ. Alors, bénissons le Seigneur pour les âmes nouvelles qui s'approchent de Dieu. Et quelles que soient les situations qu'ils ont connues dans le passé, mais accueillons-les. Car ils ont reçu Christ et ils sont maintenant enfants de Dieu, s'ils se sont vraiment repentis comme le fils prodigue, s'ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, ce sont des frères et sœurs dans la foi. Et nous devons les accepter et les accueillir dans la maison de Dieu. Maintenant, regardons l'attitude du Père dans une deuxième partie. L'attitude du Père, lorsqu'il voit son fils en colère, ça nous montre l'attitude de Dieu, il vient vers lui et lui dit « mais entre dans la maison ». C'est-à-dire que Dieu est plein d'amour et de bonté et il veut que nous soyons en communion avec lui et avec les frères et sœurs de l'Église. Il désire ce temps de partage, mais il nous voit en colère, il nous voit trop occupés, mais il dit « mais viens dans la maison, viens avec ton frère, viens avec ta sœur, ne reste pas à l'écart ». Mais le frère aîné n'écoute rien. Et puis, le frère aîné qui se considère comme un esclave, le père lui dit « mais toi, tu es mon enfant ». Il lui dit « tu es mon enfant, tu n'es pas mon esclave, tu es mon enfant et je t'aime ». Je suis toujours avec toi. Le fils aîné est toujours dans cette relation de service, mais d'esclave à maître. Il n'a pas compris sa position d'enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des enfants rachetés, des enfants de Dieu. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons Christ en nous. Si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le Père continue, « Tu es mon enfant !» Et il lui rappelle toutes les bénédictions qu'il a dans la maison, car souvent nous ne les voyons pas. Nous voyons tout ce qui nous manque, nous voyons tout ce qui est mieux ailleurs, et nous voyons tout ce que nous n'avons pas. Rappelez-vous ce chant, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Que Dieu nous aide à voir les choses que Dieu veut nous montrer. Éphésiens 1, 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça, c'est la réalité spirituelle, c'est que nous sommes bénis, nous sommes enfants de Dieu. Mais le frère aîné l'a oublié. Il se voit esclave, il est jaloux, il voit que les autres ont et pas lui, alors qu'il est béni aussi. Mais il ne le voit plus. Ses yeux ont changé. Un autre élément sur le Père va lui enseigner à changer sa vision, car il voyait d'un mauvais œil son frère et il manquait de pardon. Eh bien, Dieu veut transformer notre vision afin de nous montrer cette réalité spirituelle. Vous savez ce que le Père lui dit? Il lui dit, mais ton frère là, il était mort spirituellement et maintenant il est revenu à la vie. C'est ça la réalité. Parce que le Père lui fait montrer qu'il était perdu dans son péché et que maintenant il vit dans la bénédiction de Dieu. C'est un miracle, c'est le miracle de la conversion, de la nouvelle naissance. Et si nous perdons de vue cela, nous ne pouvons pas servir dans l'Église. Nous serons toujours jaloux, nous serons amers, nous serons comme ce fils qui critique son frère, qui n'est pas coopératif, qui ne veut pas de la communion. Enfin, il a tous les éléments pour montrer que malgré son service, il n'est pas opérationnel. Je termine avec une dernière partie. C'est l'attitude du serviteur. La première chose que je voudrais dire concernant l'attitude du vrai serviteur, c'est d'abord une décision. Car nous pouvons prendre la décision de servir Dieu, mais c'est une décision qui nous incombe à nous et pas aux autres. C'est à nous de prendre cette décision pour nous-mêmes. C'est ce que Josué exprime dans Josué 24, 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. » Voilà la position de Josué. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et ça, c'est une position spirituelle. Et ça, vous pouvez le décider, de dire ben, « Moi, je veux bien servir l'Éternel. » Si les autres ne veulent pas, ben, « Moi, je décide de servir l'Éternel. » Je prends ma responsabilité. Personne ne prendra cette décision à votre place. C'est Josué qui l'a pris pour lui et sa maison. Pourquoi sa maison? Parce qu'il est le chef de famille. En tant que père, il est le responsable spirituel de sa famille. C'est d'ailleurs au père qu'il incombe d'organiser le culte de famille. C'est lui qui doit susciter cet élan pour dire « Allez, on va chanter un cantique, on va lire un texte et on va prier. » C'est au père que ça, cette responsabilité. Et il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ah, quelle belle décision! Et si vous prenez cette décision, Dieu vous bénira. Mais sachez que le diable, il fera tout pour vous décourager de servir Dieu. Et il vous dira « Mais arrête, tu perds ton temps, tu vois bien que tu es fatigué. » Mais continuez, parce que la décision, elle est bonne, elle est spirituelle. Prenez cette décision et mettez-la en pratique. Deuxième élément, c'est une question d'obéissance. Comment servir? Quelle est l'attitude du vrai serviteur? 1 Pierre 4, 10. Alors regardez bien ce verset, parce qu'il y a énormément, dans un seul verset, il y a énormément d'enseignements. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous se repose de ses œuvres en regardant les autres trimer. C'est pas comme ça. Que chacun de vous mette au service des autres. Ah, on n'avait pas bien compris. On était resté sur une autre version. Je me repose de mes œuvres. Je fais rien. J'attends que les autres fassent. Je suis tranquille. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est de servir les autres, de se mettre au service, c'est-à-dire de se mettre au travail pour Dieu. Et ça, ce n'est pas une option, parce que Dieu ne vous dit pas, bon, si tu veux, bon, ça fait 10 ans que tu es chrétien, si tu veux, tu peux servir, si tu ne veux pas, tu ne sers pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est que si on est chrétien, automatiquement, on sert le Seigneur. Et si on ne sert pas le Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il y a quelque chose qu'on ne met pas en pratique, il y a quelque chose qu'on n'a pas capté, car la parole de Dieu, elle est là, et nous le savons par expérience, que tout chrétien qui connaît Jésus, il va avoir envie de faire quelque chose pour le Seigneur, c'est automatique, ça fait partie des fruits d'une vraie conversion. Et Pierre précise bien chacun. Il ne dit pas quelques-uns, il ne dit pas les plus vaillants, il ne dit pas ceux qui ont du temps, mais il dit chacun. Chacun à sa place. Tous les chrétiens sont appelés à servir. Et servir Dieu, il dit, si vous vous mettez au service des autres, vous servez Dieu. Et quand vous servez Dieu, vous vous mettez au service des autres. C'est des services pratiques. C'est les besoins de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a bien des besoins qui sont à pourvoir. Et la plupart des gens, ils pensent, ben, de toute façon, il y aura bien quelqu'un qui va le faire. Et puis les autres, ils se disent, ben, de toute façon, il y aura bien quelqu'un qui va le faire. Et moralité, il n'y a personne qui le fait, parce que tout le monde est dans cet état d'esprit. Mais la réalité, c'est que si nous vivons l'Évangile, quand on fait un appel pour un besoin, il devrait y avoir 15 ou 20 personnes qui se proposent. Mais des fois, il y en a une ou deux. Mais en réalité, si on vit la parole de Dieu, ça devrait être un empressement. Car chacun va mettre au service des autres ce qu'il a reçu. Et on a reçu de Dieu. Il ne faut pas le garder. Parce que Dieu ne nous veut pas dans une vie confortable, vous savez, assis sur un canapé, et puis on attend le retour de Jésus tranquillement. Si c'est ça la vie chrétienne, non. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie confortable. Car Dieu nous envoie pour consoler les affligés, mais pour affliger les confortables. Et les confortables, ils ne doivent pas rester confortables. Ils doivent se mettre au service et pas rester tranquillement pendant que les autres se démènent. Et puis enfin, le vrai le vrai service, c'est le zèle. Ça, c'est dans Romains chapitre 12, verset 11. L'attitude du vrai serviteur, Paul dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Est-ce que c'est possible d'avoir de la paresse, hein? De se reposer pendant que les autres y travaillent et de les laisser faire. Paresse. Ne pas travailler. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Bon, il y a tout dans la parole, en fait. Il y a tout, tout est là. Il suffit de l'accepter, de le croire et de le mettre en pratique. Parce que c'est toujours plus facile de ne rien faire, de se dire « Moi, je me tiens à l'écart. Les autres se débrouilleront. » Mais aujourd'hui, le Seigneur vous interpelle et vous dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu ? Quel est ton service ? Est-ce que tu sers le Seigneur ? Est-ce que tu fais quelque chose ? Est-ce que tu réponds aux besoins ?» Et ça, il faut se réveiller de la torpeur. C'est ce que dit le texte. « Soyez fervents. » Parce qu'il y a une sorte de sommeil, d'assoupissement qui s'opère et puis là, on est tranquille. Mais non, on doit secouer la torpeur. Non, 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 je veux rester alerte. Je veux être fervent d'esprit. Qu'est-ce que c'est le zèle ? C'est le désir de servir. C'est un désir ardent. On a chanté « Une flamme en moi réchauffe mon cœur ». C'est une flamme pour le service, un désir de servir Dieu. Mais quand c'est la paresse qui domine, quand on n'a plus la ferveur du début, qu'on a laissé les choses s'installer, eh bien il faut secouer tout ça, prier le Seigneur de nous réveiller, de nous redonner de l'élan, et il va le faire. Alors, en conclusion, servir Dieu, ce n'est pas une option. Mais je dirais que c'est un impératif divin, et c'est une décision que vous pouvez prendre maintenant. Posez-vous simplement honnêtement la question, on va prier quelques instants, on est là devant le Seigneur, mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner, parce que chacun avance, et il y en a qui font déjà beaucoup, beaucoup de services, mais il y en a qui ne font rien du tout, et c'est cet équilibre qu'il faut retrouver, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait 10% dans une église qui fasse les 90% du travail, et puis 90% qui se reposent en regardant les autres travailler, il y a un problème. Donc, ceux qui font déjà beaucoup, gloire à Dieu, mais on ne demande pas que vous fassiez au-delà de vos limites, et c'est déjà très bien. Car Dieu a donné à chacun, il est dit chacun, et tout le monde ne va pas tout faire. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire. Et quand on peut se rendre disponible pour aider, ne serait-ce que le ménage, un service, une activité pour le Seigneur, eh bien cela va vous donner de la joie à être utile dans l'œuvre de Dieu. Vous ne serez plus simplement des spectateurs à écouter, à louer le Seigneur, à venir dimanche après dimanche, sur la même chaise, mais vous allez entrer dans une dynamique de service, d'activité pour le Seigneur. Et ça, c'est une source d'épanouissement. Car, quand nous servons avec empressement, Dieu touche notre cœur, il nous donne de la joie, et nous voyons l'œuvre de Dieu se faire. C'est aussi un sacrifice, parce qu'on renonce à certaines choses. Mais on ne pourra pas s'épanouir tranquillement si on ne sert pas le Seigneur, ce n'est pas possible. Peut-être que Satan vous dit « Mais laisse les autres faire, reste tranquille, tu serviras plus tard. » C'est un mensonge de Satan. Il vous fait croire que vous serez heureux, que vous serez bien. Non, vous n'avancerez pas dans la vie avec Dieu. J'aimerais qu'on prie un instant. Merci encore pour ta parole qui nous interpelle à avoir cette vie de service, cette vie utile dans ta maison. Et je te prie ce matin pour qu'il y ait au milieu de nous des frères, des sœurs qui se ressaisissent, qui prennent position, qui disent comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui Seigneur, tu parles toi-même au cœur et je te prie de bénir ce matin.